Ce matin se trouve dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, c'est à la page 772. Et avant de lire le passage, je vais prier. Prions. Merci notre bon Père Céleste pour ta parole. Parle-nous ce matin. Nous avons besoin d'entendre tes paroles, ta voix. Puisse ta vérité chasser les mensonges, notre incrédulité. Parle-nous, Seigneur, renouvelle-nous. Nous avons besoin de voir plus clair, de voir Jésus. Et donne-nous de mettre notre confiance en lui seul. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Donc, Philippiens chapitre 3, et les versets 1 à 11. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ. Et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, notre passage ce matin commence avec une exhortation, avec un commandement. Réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est-à-dire réjouissez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la joie ce matin. Hier, on a célébré le mariage de Michael et Naomi et on était dans la joie de les voir si heureux. Ils avaient de la joie l'un dans l'autre, c'est beau à voir. Mais est-ce que nous avons de la joie dans le Seigneur lui-même? L'apôtre Paul a donné ce commandement, cette exhortation, ce commandement à l'église de Philippe. Et ça s'applique à nous aussi. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Nous devons avoir de la joie en lui. Cette joie doit caractériser notre relation avec lui. Et si on remet ce commandement dans le contexte de cette lettre, où on a vu que Paul veut encourager ses lecteurs à poursuivre le partenariat avec lui, un partenariat de l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas encore, on comprend bien pourquoi cette joie est vitale. Comment annoncer la bonne nouvelle de Jésus ? Si nous-mêmes, nous n'expérimentons pas de joie en lui. Alors, est-ce que votre cœur expérimente cette profonde consolation en lui, ce vrai contentement en lui, cette solide espérance en lui. Alors la vie n'est pas toujours facile et la foi n'est pas toujours facile. Dans la vie, il y a des coups durs. Certains, même en ce moment, passent par des moments très difficiles. Et nous sommes tous fragiles. Pour certains, je pense que cette joie les échappe totalement. Oui, ils croient en Christ. Ils savent comment vivre, ce qu'il faut faire. Ils sont même très engagés, fidèles au Seigneur. Mais cette joie manque. Il n'y a pas vraiment de consolation, de joie en lui. Parfois, c'est simplement le devoir qui est là. Parfois même, c'est juste la peur. Comment est-ce qu'on peut avoir cette joie en Jésus lui-même? Comment est-ce qu'on peut vraiment vivre ce commandement « Réjouissez-vous dans le Seigneur » Alors l'apôtre Paul n'est pas méchant, l'apôtre Paul n'est pas cruel. S'il nous donne ce commandement, il nous montre comment le vivre, comment avoir cette joie, comment alimenter cette joie dans nos cœurs jour après jour. Et ma prière pour ce matin, c'est que la parole nous montre, nous équipe pour avoir cette joie, pour nous donner cette joie et pour nous montrer comment l'alimenter jour après jour. Comme nous avons déjà vu dans cette lettre, ce qu'il nous faut pour vivre ce partenariat de l'annonce de l'Évangile, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est cette connaissance du Seigneur enfouie profondément dans nos cœurs, comme un fondement, comme un pilier, qui nous donne de l'amour les uns pour les autres. On a vu ça au chapitre 2. Cet amour nous donne du discernement pour savoir comment vivre. Et nous allons voir ce matin que c'est cette connaissance de Jésus-Christ, cette connaissance de qui il est, mais aussi de ce qu'il a accompli, qui nous donne cette joie en lui. Elle nous permet d'annoncer cette bonne nouvelle avec joie. Alors c'est le verset 3 qui nous donne nos deux sections pour ce matin, nos deux points. C'est là que nous voyons qu'il n'y a que deux options dans la vie. Soit nous mettons notre fierté en Jésus-Christ, soit nous mettons notre fierté ou notre confiance dans l'homme, dans notre propre condition, notre propre performance. Donc, suivant un peu l'ordre du texte, notre premier point pour ce matin, c'est le danger de la religion centrée sur l'homme. Le danger de la religion centrée sur l'homme. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir la joie d'une foi ancrée en Jésus-Christ. On va commencer avec ce premier point, le danger de la religion centrée sur l'homme. Et l'apôtre Paul dit qu'il écrit ces mêmes choses pour la sécurité de ses lecteurs. Autrement dit, Paul aime tellement ses chrétiens à Philippe qu'il n'hésite pas à être ennuyeux. Un parent, puisqu'il aime son enfant, va dire et redire les mêmes choses, les mêmes avertissements. N'oublie pas de regarder deux fois avant de traverser la rue. Ne rentre pas trop tard. Et Paul aime les Philippiens. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à redire les mêmes choses. Et sans doute, il les redit parce qu'il sait que c'est dans la nature même de l'homme pécheur de faire confiance à lui-même plutôt qu'à Dieu. Et donc chacun de nous est concerné par ces avertissements parce que c'est dans notre nature même, la nature de l'homme pécheur, de revenir sans cesse et de mettre notre confiance en nous-mêmes plutôt qu'en Dieu. Alors Paul emploie des termes un peu choquants au verset 2. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis, ou littéralement à la mutilation. Alors, pour être bref, Paul fait référence à des personnes qui se disaient chrétiens, mais qui voulait obliger les chrétiens comme ceux de Philippe à ajouter des traditions juives à leur foi. Et vraisemblablement, c'était question de pratiquer la circoncision masculine et peut-être d'autres œuvres venant de la loi juive de l'Ancien Testament. Sans doute, ces personnes disaient aux chrétiens de Philippe qu'il fallait, pour être vraiment spirituel, ou pour être vraiment né de nouveau, vraiment sauvé, qu'il fallait pratiquer ces rites en plus de leur foi en Jésus-Christ. Et si on devait revenir au début de la foi chrétienne, l'histoire de l'Église, la première Église chrétienne, ce genre de faux enseignements sont tout à fait compréhensibles. Le christianisme sort du judaïsme et s'étend de manière heureuse et radicale à tous ceux, juifs et non-juifs, qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Et la radicalité de la foi en Jésus seul, la radicalité de cette rupture avec les traditions pourtant données par Dieu dans l'Ancien Testament ont déstabilisé plus d'un. Mais si on peut comprendre la confusion de certains, l'apôtre Paul est quand même furax. Et c'est pour ça qu'il tourne en dérision les propos de ces faux enseignants. Ces gens qui se disent chrétiens, des chrétiens authentiques, plus authentiques. Ces personnes qui se disent être les vrais enfants de Dieu ne le sont pas du tout. Ils sont comme des chiens, c'est-à-dire comme des païens, des non-juifs, qui ne font pas partie du peuple de Dieu. En fait, ce terme « chien », ça nous rappelle cet épisode avec Jésus, où Jésus discutait, il parlait des non-juifs avec une femme syrophénicienne. Il parlait des chiens. Alors Paul parle de mauvais ouvriers ou de mauvaises œuvres pour dire que ces prétendues bonnes œuvres qu'il fallait ajouter à la foi sont finalement pas des bonnes œuvres, mais des mauvaises œuvres. Et la circoncision ne serait pas meilleure que la mutilation de la chair. Et donc Paul martèle trois fois, faites attention, il y a danger. Et il dit aux chrétiens de Philippe, non, c'est vous qui êtes le vrai peuple de Dieu. Vous êtes vraiment des chrétiens à part entière. Ceux qui placent leur fierté en Jésus et qui ne mettent pas leur fierté, leur confiance dans la condition, dans ces rites, dans cette performance religieuse, ils sont vraiment des enfants authentiques de Dieu. Et ensuite, pour enfoncer le clou, Paul va donner son témoignage personnel. Parce que Paul a connu, il connaissait toutes ces règles de l'Ancien Testament, parce qu'il les avait vécues à fond lui-même, avant de se convertir, avant de mettre sa confiance en Jésus seul. Et au verset 5, il parle de son héritage, ce qu'il a reçu dès son enfance, dès sa jeunesse. Il est bien né, Paul. Il est vraiment juif. Et ensuite, au verset 6, il parle de sa performance religieuse, selon la loi juive. Il était bien sérieux, un pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui pratiquait vraiment sérieusement la loi de l'Ancien Testament. Il était zélé jusqu'à persécuter l'Église et juste aux yeux de la loi. C'est-à-dire, personne ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit. Paul avait été vraiment au sommet de sa religion. Et ensuite, Paul annonce, et sans aucun doute, ça a dû être choquant pour les juifs pieux de l'époque, il dit qu'il comptait toute cette religiosité, toute cette religion, comme une perte. Verset 7. Ou verset 8, pire, comme des ordures, même peut-être littéralement comme de l'excrément. L'image est très forte. Et Paul est déjà dans la comparaison avec Jésus-Christ. Par comparaison, ce qu'il avait avant, même si c'était considéré comme le sommet de sa religion, même si c'était la loi de l'Ancien Testament donnée par Dieu lui-même, c'était rien à côté de Jésus-Christ. Et Paul veut que nous voyions ça. Paul veut que nous ressentions ça pour nous-mêmes. Nous n'allons pas expérimenter de la joie en Jésus-Christ si secrètement nous sommes encore attachés à notre condition religieuse. Si nous mettons notre fierté, notre confiance dans notre performance religieuse, tout ça va détruire notre joie. Alors aujourd'hui en France, je doute que nous soyons tentés de suivre des traditions juives. Mais la tentation de faire confiance à l'homme, à nous-mêmes, à nos actes, à nos rites, à notre performance, est une tentation perpétuelle, insidieuse. Si ça fait longtemps que vous fréquentez les milieux protestants évangéliques, si ça fait un moment que vous avez fléchi le genou devant Jésus-Christ, ce danger est pourtant bien présent. On a tendance à penser que le pardon, c'est pour le début de la foi chrétienne, mais une fois sauvé par la foi, nous devons quand même nous maintenir dans la foi par notre performance religieuse. Il faudrait quand même atteindre un certain niveau, prier régulièrement, témoigner régulièrement, se débarrasser de certains péchés flagrants, publics. Il faudrait quand même s'engager et faire des choses à l'église, se montrer fidèle. Alors toutes ces choses sont de bonnes choses. Je ne veux aucunement les déprécier, au contraire. Mais comment savoir si on a commencé à mettre notre confiance dans ces choses, dans ces œuvres, plutôt qu'en Jésus seul? Est-ce que la joie vous manque? Est-ce que vous faites ces choses par simple devoir? Est-ce que vous faites ces choses avec un peu de peur au ventre, un peu de peur de Dieu? Est-ce que, peut-être même secrètement, vous avez un peu peur que Dieu ne vous aime plus, ou qu'il vous aime moins, qu'il ne vous accepte plus comme avant, les bras grands ouverts? C'est un signe que votre confiance est plutôt dans ce que vous faites. Ou peut-être vous êtes ici depuis peu et votre héritage est plutôt dans le catholicisme. Sachez que nous sommes très contents de vous accueillir, de cheminer avec vous. L'année dernière, on a fait une série thématique sur les différences entre protestants et catholiques. Et si vous voulez, vous pouvez écouter ces messages sur le site internet. Il y a aussi un fascicule derrière sur la table sur les différences entre protestants et catholiques. Alors si pour le protestant, la tentation de revenir à ses œuvres est une tentation insidieuse, perpétuelle, pour le catholique, ces rites font partie de son catholicisme officiel. De manière insidieuse, la foi du croyant catholique est déviée de Jésus-Christ lui-même vers l'Église elle-même, vers ses rites, vers ses sacrements. C'est très subtil, mais à mes yeux, c'est tout aussi dangereux que le problème de ces enseignants qui appelaient les chrétiens de Philippe à ajouter des rites juifs à leur foi en Jésus-Christ. Comment diagnostiquer cette foi en l'homme et en ses rites? Encore une fois, ça nous enlève notre joie en Jésus-Christ. Cette confiance joyeuse en Jésus seul, cette sécurité joyeuse en Jésus, ça nous pousse à faire des choses, à suivre des lois et des codes par devoir, par peur, par superstition. Peut-être vous êtes ici depuis un moment et vous êtes un peu partagé entre le protestantisme, la foi biblique et le catholicisme. Oui, cette foi en Jésus seul vous attire. Mais autant couvrez vos arrières et gardez un pied dans le catholicisme avec ces rites qui semblent quand même légitimes ou qui viennent d'une institution qui semble légitime. Vous avez reçu le baptême. Vous voulez quand même prendre la messe. Vous allez à la confesse. À la mort, il vaudrait mieux voir le prêtre. Je pense que l'apôtre Paul vous dit, faites attention. Il y a un vrai danger. Où est votre confiance? La confiance de Paul est en Jésus seul. Il veut placer sa foi en Jésus seul. Alors peut-être que vous n'êtes pas très religieux de manière formelle. Peut-être ça fait un moment que vous venez, vous voulez juste écouter, voir ce que nous croyons. C'est très bien. Vous êtes vraiment les bienvenus. Notre société n'est plus très religieuse de manière formelle. Mais même l'athée le plus confirmé ne peut s'échapper à la religiosité de l'homme. Le philosophe chrétien Van Til a dit que la culture et la religion vécue, c'est la forme que la religion prend dans les vies des hommes. Et notre culture sécularisée serait la forme d'une religion vécue où l'homme se croit par la foi la mesure de toute chose, où il se place par la foi au centre et où par la foi il se juge coupable ou innocent. Digne ou indigne, il le fait très souvent en élevant l'État au niveau de Dieu lui-même. Et si l'État nous estime valable, bon citoyen, éduqué, un bon être humain, qui peut le contester? On se sent justifié. Et on a l'impression que même s'il devait y avoir un Dieu, finalement, si les autres, si l'État, si la société pense qu'on n'est pas si mauvais que ça, on met notre confiance dans ces choses-là. C'est aussi un système religieux où l'homme est au centre, où l'homme met sa confiance en lui-même. C'est un système humain où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de consolation. Et l'apôtre Paul dit « danger, danger, danger ». Et ensuite l'apôtre Paul dit « tout ça, moi j'ai vécu aussi, je vivais comme ça, je pensais comme ça. Moi, j'avais confiance en mon héritage, en ma performance religieuse, en les rites, en les sacrements, en ma performance morale. Mais plus maintenant. Si ces choses étaient anciennement à mon honneur, un gain pour moi, une sécurité pour moi, aujourd'hui, je les considère comme une perte, comme rien, même comme des ordures. Pourquoi ? Christ. Jésus-Christ seul. C'est lui que Paul veut gagner. Par comparaison à Jésus-Christ, toutes ces choses qui sont si valables à vue humaine, si nobles, si enrichissantes, si honorables, si désirables, sont rien du tout. On va passer à notre deuxième point pour ce matin. Si nous voulons être vraiment convaincus que la religion centrée sur l'homme est dangereuse, est totalement vide, sans joie. Nous avons besoin de voir le revers de la médaille. Nous avons besoin de contempler ce qui est authentique. Nous avons besoin de voir la gloire de Jésus-Christ, le bien fondé de notre espérance en lui. Parce que c'est seulement dans la comparaison que nous voyons clair. Il y a plus de 20 ans, j'ai goûté à du chocolat russe. Il n'était pas terrible. J'ai goûté aussi au chocolat russe il y a 2 ans, donc il y a quand même des améliorations. Mais si quelqu'un a grandi dans un pays où le chocolat est d'une très mauvaise qualité, je m'imagine que ça doit être une révélation quand il goûte enfin du bon chocolat suisse ou belge. Tout est dans la comparaison. Alors, l'illustration est plutôt médiocre parce que Jésus-Christ est bien sûr bien supérieur à du chocolat. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est le verset 9 qui nous donne de quoi nous réjouir. C'est un verset clé pour comprendre la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Alors, si je vous ai fait endormir par la première partie, je vous invite à revenir parce que c'est quand même la partie très importante. On voit la profondeur libératrice et joyeuse de l'Évangile. Au verset 9, l'apôtre Paul nous dit que le chrétien gagne Jésus-Christ. Alors Paul choisit ces mots prudemment. Nous ne méritons pas Christ. Nous ne travaillons pas pour acquérir Christ ou pour nous hisser à son niveau, mais nous le gagnons. En effet, Paul parle ici de recevoir Christ par la foi, sans que ça soit question de nos actes, de nos mérites, de nos sacrements. Et Christ est véritablement un trésor. En fait, Jésus a parlé de la même manière. Jésus a dit, le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Qu'est-ce que c'est ce trésor ? C'est Jésus lui-même. Paul veut gagner Christ et être trouvé en lui. C'est-à-dire uni à Jésus, collé à Jésus. Alors parfois on dit que l'évangile est une bonne nouvelle parce que Dieu peut et Dieu veut nous pardonner. Dieu nous pardonne. Mais en réalité, l'évangile est beaucoup plus que le simple pardon des péchés. Si on pense que l'évangile est simplement le pardon des péchés, qu'est-ce qui se passe la prochaine fois que nous pécherons ? Nous devons tout recommencer. Et c'est pour ça que si on pense comme ça, c'est comme ça que nous tombons parfois dans un certain légalisme, sans joie, où nous essayons de nous tenir en bon terme, de nous maintenir en bon terme avec Dieu par notre performance. C'est pour ça que dans le catholicisme, le croyant catholique doit revenir constamment au prêtre pour avoir le pardon, de peur de perdre son état de grâce. Et c'est souvent cette peur lassante, quel que soit notre arrière-plan, qui nous pousse à réduire la barre des exigences de Dieu, et dire que finalement, il y a plein de péchés qui ne sont pas si graves que ça. Mais en réalité, la bonne nouvelle qu'est l'Évangile est bien plus que le simple pardon de nos fautes, aussi merveilleux que ce pardon soit. L'apôtre Paul est dans la joie, parce qu'il se sait en Christ, uni à lui, ayant non pas sa propre justice, c'est-à-dire ses propres mérites, celle qu'il aurait lui-même de par son héritage familial ou par sa performance religieuse, mais ayant la justice de Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Et c'est critique pour bien comprendre l'évangile. On voit au verset 9 que par la foi en Jésus, et rien que par la foi en Jésus, la confiance en lui, nous sommes unis à Jésus, collés à Jésus. Et nous avons en Jésus une justice qui a sa source en Dieu et non par nous-mêmes. Dieu nous donne sa justice. En fait, il nous donne la justice de Jésus. Mais ici, c'est marqué, Dieu nous donne sa justice, la justice de Dieu. Nous sommes couverts de la justice de Dieu en Christ, dans notre union avec Jésus par la foi. Et ça veut dire que Dieu peut nous déclarer juste de manière juste. Il peut nous déclarer en bons termes avec lui, de manière juste, de manière permanente, grâce à cette justice qui vient de Dieu lui-même, qui est parfaite, sa propre justice. Et notre joie dans le Seigneur trouve son fondement là. Cette justice qui nous est donnée gratuitement par la foi en Christ nous donne un statut permanent devant Dieu, le statut d'un juste. Le statut de juste. Et si de manière permanente, jusqu'à dans l'éternité, aujourd'hui et jusque dans l'éternité, nous sommes déclarés justes devant Dieu, nous avons une espérance d'être avec Dieu pour toujours, dans sa présence. Nous pouvons savoir dans nos âmes, même dans les circonstances difficiles de la vie, que nous sommes vraiment à Dieu, que Dieu notre Père nous traite comme il traite Jésus-Christ son Fils. Il nous accepte les bras grands ouverts. Il déclare que nous sommes justes. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous sommes aimables. Ce n'est pas parce que nous avons été assez spirituels ou moraux. Ce n'est pas parce que nous avons su garder sa faveur par nos prières, notre assiduité au culte, notre témoignage, l'argent que nous donnons à l'Église, par notre manque de péché. Non, c'est uniquement grâce à cette justice qu'il nous a donnée lui-même. Cette justice qui vient de Dieu et qui est par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez à quel point cette justice est libératrice? C'est pour ça que Paul peut dire ailleurs qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors cette justice n'est pas un simple billet pour que Dieu ne nous condamne plus. C'est le moyen par lequel Dieu nous fait venir à lui, pour que nous soyons avec lui, pour que nous soyons réconciliés à lui, ses amis, ses enfants, pour toujours. Lorsqu'il n'y a plus de peur de Dieu, quand nous réalisons que nous avons reçu sa justice, nous rencontrons un Père qui nous aime. Nous rencontrons un Père dont la sainteté est aimante. Nous rencontrons un Père dont la justice est bienfaisante, la sagesse est bienfaisante. Nous rencontrons un Dieu dont la souveraineté est bienveillante. En nous revêtant de la justice de Dieu, Jésus nous conduit au Père qui nous aime. Et nous sommes comblés, nos cœurs sont comblés. C'est pour ça que Jésus est notre joie. Nos cœurs sont parfaitement apaisés en lui. Au verset 9, l'apôtre Paul nous dit qu'il veut gagner Christ. C'est relationnel. Jésus devient notre obsession glorieuse. Si l'apôtre Paul nous exhorte de nous réjouir dans le Seigneur, il nous montre comment le faire. Même quand nos circonstances sont difficiles, même quand tout autour de nous semble noir, sombre, nous pouvons savoir avec certitude que nous sommes à Dieu pour toujours, grâce à Jésus, grâce à cette justice que nous avons en lui. Ça, c'est le garant de notre sécurité, de notre amitié avec Dieu, de l'amour de Dieu, pas notre performance, c'est uniquement ce qu'il a acquis pour nous, cette justice qu'il nous a donnée. Et notre joie en Jésus commence là. Et notre joie se nourrit de cette vérité libératrice. Nous avons besoin de comprendre cette vérité. Nous avons besoin de méditer cette vérité. Dans les jours sombres, quand tout semble militer contre cette joie, nous devons nous rappeler que nous sommes en Jésus, avec une justice qui vient de Dieu. Et rien ni personne ne peut enlever cette justice qui est donnée par Dieu et qui est reçue indépendamment de nos œuvres. Et personne ne peut nous séparer de Dieu. Si nous voulons expérimenter cette joie, garder cette joie, nous devons rejeter toute forme de justice qui viendrait de notre performance morale, religieuse. Aussi stricte, aussi religieuse, aussi pieuse, aussi éclairée que cette justice humaine avec ses rites religieux puisse paraître, elle ne peut pas nous donner cette joie. Cette joie se trouve en Jésus seul. C'est tellement tentant de revenir à cette justice humaine. Moi, je sais que j'ai souvent lutté avec ça, et parfois je lutte encore. C'est une tentation perpétuelle. C'est notre mentalité humaine par défaut. On veut faire confiance à nous-mêmes. C'est dur de prendre Dieu sur parole et dire, voilà, je te fais confiance. Jésus est assez. En lui, j'ai sa justice, ta justice, et ça, c'est suffisant. C'est parfois dur de faire confiance à Dieu sur parole, mais c'est ce qui nous invite, c'est ce qui nous exhorte à faire. Et c'est pour notre bien. C'est comme ça que nous pouvons bénir le Seigneur, trouver notre consolation en lui, avoir de la joie en lui. On doit placer notre fierté en Jésus seul. Certains se posent sans doute la question de savoir si ce genre d'enseignement nous encourage à vivre n'importe comment, sans égard pour la sainteté de Dieu, sans le souci de lui plaire. Et la question est pertinente. Et la suite du passage qui nous donne la réponse, c'est les versets 10 et 11. « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » En fait, cette justice que Dieu nous donne, qui fonde notre joie en Dieu, nous donne envie de vivre pour Jésus. L'apôtre Paul veut connaître Jésus parce qu'il est à Jésus. Il est en lui. Et cette connaissance de Jésus implique une vie vécue en suivant sur les traces de Jésus. C'est une vie de plus en plus liée à Jésus-Christ lui-même, lui qui est notre joie. On n'a pas le temps d'explorer tout ce qu'on voit dans ces versets. Mais on voit ce désir de connaître Jésus dans la puissance de sa résurrection. Et très probablement, l'apôtre Paul se réfère à la puissance d'une nouvelle vie où on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. C'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 6. Cette justice qui vient de Dieu enlève toute peur de Dieu et nous donne l'envie de nous approcher de lui, de vivre pour lui. Plus nous réalisons à quel point nous sommes à Dieu, couverts de sa justice, aimés de lui, plus nous avons envie de lui plaire, de vivre pour lui. Et le péché ne nous maîtrise plus, mais la grâce, la justice nous maîtrise. Si nous sommes en Christ, il vit en nous. Et la puissance de sa résurrection vit en nous. Alors sans aucun doute, si on commence à nous laisser aller, si on commence à jouer avec le péché, notre joie en Jésus disparaît. Nous avons du mal à vraiment l'aimer, à vraiment avoir cette joie. Mais c'est vraiment cette pleine réalisation de cette justice qui vient de Dieu qui nous libère pour nous conduire à Jésus dans la repentance à la foi, sans peur de la condamnation. Et ensuite, on a de nouveau envie de lui plaire. Cette expression, la communion dans ses souffrances, est un peu étrange. Il ne parle pas de quelque chose de mystique où on médite sur les agonies de la croix, mais plutôt la fierté d'appartenir à Jésus et même de souffrir pour Jésus. Paul aime tellement Jésus parce qu'il a cette justice de Dieu en lui. Il l'aime tellement qu'il veut être associé à lui même dans ses souffrances, même quand ça lui coûte cher. Et on cite... Il sait qu'il sera avec lui pour toujours. Il va connaître cette résurrection corporelle, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas anormal de manquer de joie de temps en temps. Je pense que la vie est difficile, la foi est difficile. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Mais bien souvent, cette joie nous manque parce que nous faisons confiance à nous-mêmes. Plutôt que de mettre notre confiance en Jésus seul. Et cette confiance-là, cette confiance humaine, pille notre joie en Jésus. Elle nous l'enlève. On doit sans cesse nous rappeler ce que Jésus a accompli, ce que nous avons en lui. Nous devons sans cesse revenir à lui pour boire à ce puits-là, à cette source d'eau vivante. Nous avons besoin de revenir à cette perle de très grand prix, à Jésus, à cette justice que nous avons en lui. On a besoin de piqûres régulières. Et Dieu nous rappelle ces choses. Je pense que le moyen normal pour nous rappeler ces choses, c'est l'Église. On a besoin de prédications centrées sur Jésus-Christ, sur sa personne, sur son œuvre. On a besoin de chanter des cantiques qui nous rappellent Jésus. Qui nous conduisent au Père. On a besoin de cantiques qui nous rappellent le cœur de l'Évangile. On a besoin de la scène qui nous rappelle l'essentiel de la foi. Et bien sûr, on a besoin de la communauté. On a besoin de frères et sœurs qui peuvent nous donner ces piqûres de rappel, qui nous disent dans les moments difficiles, rappelle-toi, Tu es couvert de la justice de Jésus. Tu es en Jésus. Tu es à Dieu, aujourd'hui et dans l'éternité. Quels que soient les hauts et les bas, se réjouir dans le Seigneur, se réjouir dans l'Évangile, de cette justice de Dieu qui est la nôtre par la foi. C'est vraiment le carburant de notre partenariat. Si on veut annoncer la foi demain au travail, si on veut annoncer la foi en vacances, on doit avoir cette joie en Jésus. Et cette joie en Jésus vient lorsqu'on se rend bien compte qu'en lui et qu'en lui seul, nous avons cette justice qui nous conduit dans la présence d'un Père qui nous aime, qui nous donne un Père qui nous aime aujourd'hui et dans l'éternité. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père céleste, nous voulons te bénir pour Jésus. Merci de nous avoir donné Jésus qui a pris sur lui nos péchés et qui nous a donné en lui ta justice. Donne-nous de mettre notre confiance en lui seul. Tu vois les mensonges de nos cœurs, l'incrédulité. Ces choses sont parfois beaucoup plus ancrées dans nos cœurs que nous ne pensons. Chasse l'incrédulité, chasse ces mensonges par la vérité pour que nous puissions mettre notre foi en ton Fils seul et nous réjouir en lui seul. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus, notre justice. Amen. Amen.